Bretagne 5, écoutez la Bretagne.
Page blanche. Une émission proposée par Michel Philippot. Je reçois aujourd'hui un écrivain dont l'imagination fertile, voire débordante, nous entraîne, lecteurs, à la découverte d'un genre bien particulier, la fantaisie, en des mondes où les dragons existent pour de vrai, j'en témoigne, je les ai rencontrés dans son œuvre, où les blessures les plus saignantes se guérissent par la magie, où des intrus tels que l'homme perdent rapidement leurs repères et où courage, bravoure, intelligence restent, comme dans les contes, les meilleures armes entre les mains des héros. Le garçon est né en 1972 sous le soleil du Midi, il en reste même une toute petite pointe d'ail. Ses voyages au service de l'armée de terre l'entraîneront autour du monde, instructeur de combat. Il finit par poser son paquetage avec femme et enfant en Bretagne, où il réside désormais depuis une quinzaine d'années. Orthoprothésiste de formation, il exerce toujours. Il écrit, dit-il, depuis l'enfance et publie en 2012 le mystérieux héritage de Diella, qui est le premier tome d'une quadrilogie intitulée « À l'aube des temps nouveaux », suivi en 2013 de « Sombre destinée », « Bouc d'or » en 2014 et « Le peuple Yin » qui clôt la saga en 2015. Juillet 2016 voit la parution de « La communauté de l'œil », c'est le titre, qui ouvre une nouvelle saga, l'Orbita Orlus, dont nous allons tout à l'heure parler abondamment. On lui doit également, et il ne faudrait pas l'oublier, un très joli conte dans un genre totalement différent, un conte pour enfants, Capucine et l'étoile céleste. J'accueille aujourd'hui l'écrivain, avec plaisir, Ghislain Fernandez. Ghislain Fernandez, bonjour.
Bonjour.
Alors, ce portrait vous convient-il ?
Ah ben oui, il est plutôt élogieux, oui, tout à fait.
Alors, Ghislain Fernandez, pour être tout à fait franc et de rien vous cacher, j'ai longtemps hésité à vous inviter dans Page Blanche. Parce que au-delà de la sympathie que j'éprouve et à votre égard et des liens amicaux qui nous unissent, j'avoue que l'univers de la fantaisie m'était totalement étranger, me faisait même un peu peur, j'avoue, et c'est ce que je croyais. Et puis, à la lecture de ce roman, La communauté de l'œil, donc ce dernier publié, qui ouvre donc cette seconde saga que vous avez démarrée par ce titre, L'Orbita Orlus, eh bien, j'ai tout simplement retrouvé des sensations de lecteur, c'est-à-dire des sensations de lecteur et de lecture d'enfance éprouvées, par exemple, lors de la lecture de Jules Verne, voilà, ou aventure, dépaysement, suspense, imagination, découverte d'un monde clos et caché, bref, tout ça est tout à fait présent dans cet univers. Alors, difficile de définir ce qu'est la fantaisie. J'ai l'impression peut-être que chaque auteur a un peu la sienne, déjà. Quelle définition donneriez-vous, Ghislain, excusez-moi, je savais que je ferais cette erreur, je ne sais pas pourquoi. Quelle définition donneriez-vous, Ghislain Fernandez, très simplement à nos auditeurs qui seraient encore étrangers à ce genre littéraire ?
Alors, c'est vrai que la fantaisie, elle est connue surtout un petit peu à cause du Seigneur des Anneaux, Bilbo le Hobbit ou des grandes œuvres comme ça. Mais vous avez raison de dire qu'effectivement, chaque auteur emmène aussi un petit peu sa part d'imaginaire et donc qui ne va pas forcément coller avec l'imaginaire d'un autre. À proprement parler, la fantaisie, du moins celle que moi j'écris, c'est de la science-fantaisie. Je mélange souvent notre monde ordinaire ou des technologies avec de la magie. Donc, pour moi, ce qui est important dans la fantaisie, c'est d'emmener le lecteur à partir en voyage, faire des découvertes étonnantes. Mais ce que je déteste dans ces univers-là, que l'on retrouve de temps en temps, c'est la fantasmagorie. C'est-à-dire que là, on part sur des univers complètement fantasmagoriques, complètement inventés, sans aucune logique avec, avec la vie telle qu'elle est conçue autour de nous. Donc pour moi, c'est important aussi que l'heroic fantasy telle que moi je la définis, elle puisse être possible, qu'on puisse se dire, bon, ok, la magie, si elle existait, sous cet angle-là, ça pourrait marcher. Voilà. Et on a envie d'y croire, puisqu'évidemment, on a envie un peu aussi de rêver, et le merveilleux est important aussi. Quoi.
Mmh. Voilà. On est effectivement totalement dans cet univers de merveilleux, de rêve, mais en même temps de crédibilité. Enfin, c'est tout à fait crédible.
Complètement.
Alors, j'aimerais vous soumettre deux définitions. L'une de André-François Ruault, qui est essayiste, écrivain. L'autre de Anne Besson, qui est maître de conférences en littérature générale et comparée à l'Université d'Artois. Alors, André-François Ruault écrit ceci, parlant de la fantaisie. C'est une littérature qui se trouve dotée d'une dimension mythique et qui incorpore dans son récit un élément d'irrationnel au traitement non purement horrifique, notamment incarné par l'utilisation de la magie. Et il ajoute, la fantaisie est bien plutôt une remise au goût du jour de la littérature d'imagination entre merveilleux et fantastique, dont on peut repérer les étapes et les traces. Et puis, avant de vous redonner la parole, la deuxième définition que j'annonçais, donc d'Anne Besson, qui dit, parlons globalement de la fantaisie, ce sont des œuvres, des ensembles d'œuvres qui exaltent ou parodient une noblesse passée marquée par l'héroïsme, les splendeurs de la nature préservée et l'omniprésence du sacré, en ayant recours à un surnaturel magique qui s'appuie sur les mythes et le folklore. Alors, de quelle manière, Ghislain Fernandez, ces deux définitions font-elles écho, ou non, à votre propre univers ?
Ben, c'est vrai que, d'une certaine manière, lorsque j'entends qu'on repart un petit peu sur des mythes ou sur du folklore, en réalité, tout ce qui est mythe et folklore, c'est systématiquement lorsque l'on met en avant la magie, quoi. Donc moi, dans mes univers, en définitif, on est sur des chasseurs de dragons, sur des dragons, et on a des mages crâmes dans l'histoire sur l'Orbita Orlus, qui sont en fait des magiciens guérisseurs. Donc je me retrouve un peu dans ce concept-là. Sauf que les définitions que j'ai entendues, ce sont des définitions de première ère. C'est-à-dire que depuis quelques années, l'heroic fantasy a énormément muté, elle a changé. C'est un peu comme les arts martiaux. Vous avez eu un art martial qui était plus basé sur la médecine, et pas chinoise, mais plutôt hindouiste, puisque c'est Bodhidharma qui a ramené ça en Chine ensuite. Et ensuite, chacun a trouvé un intérêt et a développé un sens plutôt qu'un autre. Et dans l'heroic fantasy, c'est la même chose. On a eu la science-fiction, on a eu du fantastique, on a de la low fantasy, high fantasy, de la fantasy urbaine. On a on a au moins une dizaine de sous-genres. Et du coup, effectivement, dans ces sous-genres-là, on va traiter plus un élément qu'un autre. Dans la science fantasy, on va mélanger la science-fiction et l'heroic fantasy, donc la partie magique, aventure, découverte, rencontre, guerre, forcément, puisque fantasy, c'est souvent manichéen, le bien contre le mal. Donc ça, on le retrouve, mais après, chacun va y trouver un intérêt. Donc dans la fantasy urbaine, on ne retrouvera pas forcément le bien contre le mal, mais ce sera plutôt l'humain lui-même qui sera finalement le mal absolu, et une personne complètement secrète qui va venir dans tout ça régler l'ordre. Et puis aussi, depuis 2-3 ans, on entend parler aussi, il y a l'Uchronie et la dystopie. L'Uchronie, c'est retour vers le futur. Pour faire simple et pour donner une image, pour ceux qui ne connaissent pas trop, quoique Retour vers le futur on connaît, mais l'Uchronie on connaît moins. Et dans la dystopie, on a des genres comme Hunger Games, Divergente, Labyrinthe, où en fait on va sortir des héros qui viennent d'une population finalement déjà sous le joug d'envahisseurs démoniaques. Et au fur et à mesure qu'il va s'affranchir de certains obstacles et qu'on pense qu'il va grandir, on le découvre encore pire qu'au début. Donc ces gens-là, effectivement, sont tellement dynamiques qu'ils ont plus tant dans la lecture que dans le visuel. C'est pour ça qu'on les a vus naître. Et moi, je m'en éloigne un tout petit peu, puisque je mets plutôt en avant la littérature du merveilleux. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que le héros s'affranchit de certaines choses, on le voit réellement grandir, et le lecteur grandit avec. C'est-à-dire qu'il va pouvoir aussi, même si on est dans l'heroic fantasy, on est dans quelque chose d'un peu impossible, on peut aussi se mettre à la place des héros en se disant, bah, finalement, si j'étais confronté à telle ou telle chose, qui pourrait être une réalité, hein, un monstre qui est face à vous, vous avez deux solutions, soit vous partez en courant, soit vous essayez de l'affronter. Et si on ne le dote pas de pouvoir, effectivement, vaut mieux qu'il parte en courant. Donc on peut effectivement s'identifier facilement à ces personnages-là en se disant, ben voilà, finalement il a agi d'une manière tout à fait humaine et la survie prime, que ce soit dans un monde magique ou dans le nôtre, la survie prime toujours sur souvent la logique ou le côté un petit peu acte héroïque, alors qu'on est dans l'heroic fantasy, quoi.
Alors, vous nous avez brossé un tableau assez complet qui anticipe quelques questions que j'avais, ce qui est très très bien, au contraire. Je souhaiterais prolonger cette réflexion sur la nature du genre, pour peut-être plus spécifiquement pour nos auditeurs, expliquer quelle différence vous faites entre la fantaisie et le fantastique, parce que c'est vrai qu'il y a là quelque chose
étroits.
Qui
sont ces deux univers étroits, deux, mais voilà. Qui cohabitent bien souvent.
Voilà, mais qui sont quand même fondamentalement différents. Et puis l'autre aspect, c'est également vous en avez parlé un petit peu tout à l'heure, la dichotomie entre la fantaisie et la science-fiction, qui ne fait pas appel au même ressort, l'un étant la science, l'autre. Alors vous êtes dans une, vous sembliez dire que vous êtes dans une forme un peu médiane. Et puis peut-être la fantaisie et le conte, c'est peut-être là où il y a le plus de points communs encore.
En fait, moi, je m'aperçois que dans mon genre, souvent, c'est de la science-fantasy. Maintenant, la différence que moi, je mets en avant, c'est que je mets d'abord tous les atouts de la rencontre, du côté un petit peu humain, et surtout, comment on peut créer des amitiés impossibles, que ce soit dans Capucine et l'Étoile Céleste. C'est une jeune fille qui a 7 ans, qui est complètement envahie par la passion de son père, qui est un grand musicien et qui a perdu l'usage d'une main dans un accident, et qui va lui confier son piano et qui va tellement l'envahir qu'il en oublie que sa petite fille, elle a envie d'avoir des amis, jouer à l'extérieur et pas seulement jouer du piano. Et donc, dans ce conte, on va découvrir comment une amitié va naître entre une petite fille et une étoile filante qui s'est perdue dans la forêt de Brocéliande. Donc j'aime bien souvent remettre un petit peu au goût du jour, et surtout pour les jeunes lecteurs, leur montrer que ce qui est essentiel dans notre humanité, telle que moi je la conçois, c'est d'essayer de créer des liens d'amitié, parce que l'amitié élève les gens. Il faut souvent se souvenir qu'on ne construit rien tout seul. Nous-mêmes, en tant qu'écrivains, on a été influencés d'une manière ou d'une autre, et si on s'était mis dans un monde complètement stérile de toute logique extérieure, on serait, je dirais que nos idées seraient plutôt insipides. C'est le mélange des genres qui fait la qualité des rencontres et qui crée des amitiés.
Alors, ça n'était pas tout à fait dans mon déroulé, mais puisque vous en parlez, vous parliez de ce conte, Capucine et l'étoile céleste. Que je n'ai pas aujourd'hui parce que je l'ai offert. Je l'ai offert et j'ai fait le bonheur d'un enfant. Je l'avais lu évidemment à l'époque. C'est un très beau texte, très très beau texte.
Merci.
Mais il y a aussi de très belles illustrations. Alors, pouvez-vous nous dire un mot peut-être de l'illustrateur qui a travaillé sur ce conte ?
Alors, ce conte, il est assez particulier puisque ma maison d'édition, en fait, a été en relation avec des professeurs d'école primaire qui sont allés la voir en lui disant voilà, on aime bien ce que fait Justin Fernandez, il nous emmène souvent dans des voyages pas possibles, il a un imaginaire qui pourrait emmener nos enfants vraiment dans autre chose que dans la dure réalité que l'on a, et puis aussi on en a marre de lire à nos petits en fait des histoires de pieds qui ont perdu leurs chaussons, quoi. Est-ce qu'il y aurait moyen de le rencontrer, etc. Donc moi je les ai rencontrés. Ils m'ont donné leur ligne éditoriale sur l'instant, c'était de parler de l'âme des enfants et comment on construit des amitiés impossibles. C'est pour ça que cette histoire est née de cette manière-là. Et j'avais rencontré Michel Bordery, qui est l'illustrateur, à Rouen un an plus tôt. Et je me suis souvenu qu'il me disait « La seule chose qu'on m'a jamais proposé de faire, c'est des livres jeunesse. » Il me dit « J'adorerais faire ça. » Et je me suis souvenu de lui. Et du coup, quand on m'a confié ce projet... Je l'ai appelé immédiatement pour lui dire, voilà, est-ce que ça t'intéresserait de faire ce petit conte? Et du coup, il me dit, j'en sais rien, envoie-moi le manuscrit, je regarde voir si je me sentirais de le faire ou pas. En réalité, j'étais en train d'écrire la journée Le Peuple Yin, ce dernier volet de la saga, lorsqu'on travaillait la nuit sur Capucine. On a ri, mais vraiment beaucoup ri, puisque en fait il m'a montré plusieurs dessins jusqu'à ce que l'on trouve un visuel qui nous convienne à tous les deux. Donc j'ai eu des capucines sous toutes les sauces, quoi, jusqu'à ce que l'on voit, à un moment donné sur une page, on voit Capucine qui est complètement mitouflée avec un bonnet et qui s'enfuit de la maison. On a démarré par ce dessin-là. Ensuite, on a vraiment travaillé par amitié. Aussi, ce que j'aime beaucoup avec Michel Bordery, dans ses illustrations, parce qu'en réalité, il fait des illustrations beaucoup plus précises. D'ailleurs, c'est lui qui a fait la couverture de l'Orbita Orlus.
Oui, voilà, j'allais
en parler. Mais si on a l'occasion d'aller voir ses dessins, il a un peu la même manière que moi, mais d'une manière d'illustrateur, c'est-à-dire que à la première apparence, on voit un dessin, et celui qui s'attarde sur les dessins va s'apercevoir qu'il y a encore autre chose derrière. Et on a travaillé sur Capucine de la même manière, c'est-à-dire que si on regarde certains dessins, on va voir des choses qui sont complètement cachées dans le dessin. Il s'est amusé à redessiner la chambre de Capucine et la tapisserie de la chambre. Il l'a faite, il a dessiné quoi, les petits canards, etc. C'était juste fabuleux. On a travaillé sur des profondeurs aussi, qui se font pas habituellement dans les livres jeunesse, et notamment lorsque Capucine va finalement être séparée de Céleste, on va avoir un arbre qui sera un peu humanisé, qui aura finalement des yeux, un nez, des bras, mais on s'en aperçoit pas au premier abord. C'est lorsque on regarde le dessin avec détail. Et souvent, les enfants à qui on lit le livre, puisqu'ils ne sont pas encore forcément l'âge, eux le voient tout de suite.
Le voient tout de suite.
Et c'est ça que j'ai trouvé prodigieux chez lui, c'est qu'il fait des dessins à couper le souffle, quoi.
Bon, en tout cas, le résultat est magnifique. Et puis, les couleurs sont d'une grande tendresse, d'une
tout
grande,
à fait, ouais.
Voilà, bienveillante presque. Hein. C'est vraiment très 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 agréable.
On voulait quelque chose qui soit assez réaliste dans le visuel et en même temps qui reste un visuel pour enfants. Donc, on est sur des couleurs douces. Voilà. Lorsqu'il y a besoin, il n'y a qu'un seul dessin où, qui est bleuté, et c'est en pleine nuit dans la forêt, Capucine se retrouve toute seule, elle a perdu l'avantage des pouvoirs de Céleste, et du coup elle se retrouve un peu désemparée. Mais sinon, voilà, effectivement, on est sur des couleurs plutôt douces et rassurantes, quoi.
Alors, écoutez, c'était formidable. On a eu l'occasion de parler de ce très beau livre. On va revenir un petit peu à votre univers de fantasy.
Oui.
Quelles sont, à vos yeux, les œuvres fondatrices de ce genre ? Alors, on présente souvent Tolkien, bien sûr. On présente aussi Robert Howard, donc Conan le Barbare. Est-ce que vous souscrivez à ces deux pilier, ces deux jambes de la fantasy? Et puis, question corollaire, quelles œuvres vous ont marqué en tant qu'enfant et puis en tant qu'adolescent pour vous amener à devenir vous-même un auteur de ce genre?
Alors moi, il faut savoir que quand j'étais tout petit, la lecture, mes parents devenaient fous avec moi parce que je voulais pas lire. Mes professeurs s'arrachaient les quelques cheveux qui leur restaient.
Ça donne de l'espoir à tous les parents qui nous écoutent.
Et évidemment, alors, il y a effectivement, moi, il faut savoir que je suis un enfant. Alors évidemment, à l'époque, on ne le savait pas, mais aujourd'hui, on en parle plus. On parle de dyslexie et de dysorthographie. Moi, je fais partie de ces auteurs qui sont dyslexiques et dysorthographiques. Donc, j'avais cette difficulté à lire, tout simplement. Et j'ai eu une professeure qui a eu l'intelligence de comprendre mon problème et de contourner, en fait, le travail de lecture, puisqu'à cet âge-là, les enfants, c'est du travail, hein, et qui m'a proposé, en fait, Bilbo le Hobbit, de J.R. Tolkien, qui a ouvert chez moi un imaginaire sans faille, puisque quand on est des enfants, on n'a pas de limite. Et donc, à partir de là, je me suis essayé sur d'autres œuvres, des œuvres que l'on connaît, enfin que les anciens connaissent, puisque ceux qui aimaient la science-fiction connaissent très bien Isaac Asimov,
bien sûr,
avec le cycle de Trentor, etc., etc., les règles des robots, enfin bon, on ne va pas en faire l'apogée maintenant, mais qui a, en son temps, fait des choses étonnantes. Et donc, je me suis plongé dedans, dans ces univers-là, où effectivement, l'imaginaire était important. Et j'ai tout naturellement ensuite découvert Le Seigneur des Anneaux, Les Silmarillion et d'autres livres ensuite, quoi. Voilà.
Alors, Ghislain Fernandez, on va respirer un peu, une petite pause musicale. Vous avez fait un choix global, puisque vous avez misé sur un seul auteur, Luc
Arbogast,
et en particulier son album de 2014, Oriflamme.
Tout à fait.
Et c'est ce titre de l'album que nous écoutons, Oriflamme.
Salvare, forse salvere.
Alors, Ghislain Fernandez, pourquoi ce choix musical? Alors, vous me disiez, en préparant un peu cette émission, que cette musique, cet album de Luc Arbogast était lié à un rituel de votre écriture. Mais encore.
Alors là, je vais vous faire peur. Hein. On va passer dans le côté obscur. Si vous voulez, Arbogast, il chante d'une manière très, très onirique par moment. Et surtout, la chanson qu'on vient d'écouter, c'est un passage que j'ai mis lorsque j'ai enterré mon père, il y a quelques temps. Et je voulais lui faire partager mon univers du côté médiéval. Et elle dit qu'Arbogast ne chante que sur du médiéval. Et donc, je trouvais ça important. Alors, pourquoi ce rituel? Ben, je me mets en phase et en union avec mon père. Il faut savoir que quand j'étais enfant, en fait, j'ai commencé à écrire le premier volet en fait, de Une mystérieuse héritage de Diela, qui est paru en 2012. Les premiers passages avaient remporté un concours à l'école sur les grottes du Plan d'Or. C'est un des passages du mystérieux héritage de Diela, d'ailleurs, qui est resté quasiment à l'écriture enfant sur le tome. Et mon papa avait tellement galéré pour me faire lire qu'il n'avait pas vu que j'avais un peu changé. Et il m'a dit, tu sais mon fils, il faut se concentrer sur d'autres choses, c'est pas avec des mots et des phrases qu'on répare des voitures ou qu'on construit des murs. J'ai donc construit ma vie pour lui faire plaisir, et c'est un peu la même chose entre Capucine et son père. Elle rêvait d'autre chose, mais elle lui a fait plaisir, elle est devenue une grande musicienne. Et pour mon père, en fait, j'ai abandonné l'écriture et je me suis cherché. C'est pour ça que je suis parti en Nouvelle-Calédonie, je suis devenu moniteur de combat puisque j'ai passé mon enfance à faire des arts martiaux. Donc je l'ai mis au profit de l'armée puisque mon père a fait la guerre d'Algérie. Et je pensais qu'à ses yeux, si j'étais un militaire et un guerrier, j'aurais le mérite d'être un peu plus entendu. J'ai effectivement rendu mon père très fier, mais finalement j'ai quitté l'armée au bout de 2 ans, à la fin d'un premier contrat, puisque c'était un univers qui ne me collait absolument pas, et j'ai continué à me chercher. Donc j'ai fait un peu le tour du monde grâce à l'armée, et puis ensuite j'ai fait des études de médecine, tout simplement pour partir comme urgentiste, et puis ensuite je suis parti dans l'orthoprothésie et je me suis cherché pendant très longtemps. Et j'essaie de faire court hein, parce que voilà.
Non, mais c'est tout à fait intéressant.
Je me suis installé en Bretagne et mon épouse est tombée sur mes premiers textes d'enfant, et effectivement elle m'a demandé d'écrire la suite des univers du mystérieux héritage de Diela, qui ne s'appelait pas comme ça au départ, c'était les grottes du Plan d'Or. Et puis, finalement, un an plus tard, mon père a été atteint de la maladie d'Alzheimer. Mais avant de complètement être sous l'emprise de cette maladie, il a pu lire mon manuscrit. Et il m'a dit entre deux mots qu'il s'excusait d'avoir freiné peut-être un peu cet élan. Et je lui ai dit que grâce à lui, j'avais 1000 histoires à raconter, puisque j'ai vu 1000 choses que je n'aurais peut-être pas fait si j'avais fait des études littéraires. Donc aujourd'hui, je lui dois aussi ces univers-là. Je lui dois parce que grâce à lui, je me suis cherché un peu en faisant le tour du monde. Et donc, quand j'écris Oriflamme, c'est important pour moi de... Voilà, je suis en communion avec lui.
Voilà, c'est un lien qui vous marque.
Voilà, complètement.
Écoutez, c'est une histoire très, très émouvante et merci de nous la confier au micro de Bretagne 5. C'est... Voilà, un moment très fort. Alors, Ghislain Fernandez, on va plonger maintenant dans cet univers, justement. Venons-en à ce dernier roman, donc celui qui est paru en juillet de cette année, La communauté de l'œil, et qui ouvre donc une nouvelle saga, L'Orbita Orlus. Alors, d'abord, quelle étrange invention que ce mot. En tout cas, c'est comme ça qu'il m'apparaît. Est-ce trop en dire à nos auditeurs et donc à vos lecteurs potentiels que de révéler ce qui se cache derrière ce mot Orbita Orlus dans le roman? Alors je vais vous laisser répondre à cette question parce que je ne voudrais pas déflorer de manière un peu trop directe le sujet. Donc je vous laisse juger, est-ce qu'il faut en parler ou pas?
Alors l'Orbita Orlus est un objet magique qui a été construit par un druide qui vit caché en Bretagne et qui est le personnage récurrent de toutes mes histoires, que ce soit de À l'aube des temps nouveaux, la première quadrilogie dont vous avez parlé tout à l'heure, ou L'Orbita Orlus, ou d'autres titres qui seront à venir. Et donc ce mage s'appelle Denartimeus, et pour pouvoir en fait régler un problème dans la première saga, il s'était aventuré sur Narvalda, donc le monde que l'on va découvrir dans L'Orbita Orlus, pour dérober un objet extrêmement important qu'il a utilisé en combinant avec sa magie et avec des engrenages en or pour faire que cet objet-là, en fait, puisse lui révéler certaines choses dans la saga. Donc, malheureusement pour les enfants qui vont le découvrir, cet objet, ça va être un peu finalement l'objet de toutes les convoitises sur Narvalda, puisque c'est un objet magique. Tous les Narvaldiens ont tous une part de magie qui fait qu'ils sont attirés par cet objet-là. Et tout le monde va le convoiter, et notamment le méchant de l'histoire qui s'appelle Swag, et qui est un sorcier qui veut tout simplement
le pouvoir
absolu, et prendre toute la magie de ce monde.
Alors, ce qui est intéressant, parmi bien d'autres choses, et original dans cette quête, parce que c'est bien une quête à laquelle on a affaire, dans cette quête poursuivie par nos héros, c'est en fait que ce n'est pas l'objet qu'on cherche. L'objet, cette Orbita Orlus, ils l'ont en leur possession.
Tout à fait.
La quête va porter non pas sur cette espèce de reconquête d'un Graal, mais plus sur celle du propriétaire de l'objet.
Exactement.
Alors, est-ce qu'on peut en révéler un peu plus, encore une fois, sur cette quête, sans déflorer l'histoire ?
En fait, donc Denartimeus, lorsqu'il a volé cet objet, il l'a volé au dragon blanc de ce monde, qui est le seigneur du savoir. Et donc, en réalité, l'idée, c'est que Denartimeus s'est rendu compte qu'il avait fait du mal. Il n'est pas en mesure lui-même de rendre, en fait, l'un des objets qui constituent l'Orbita Orlus à son propriétaire. Et donc, il va tendre un traquenard à deux enfants, et un prêtre qui vit dans la cathédrale de Saint-Corentin à Quimper,
Adamé.
Le frère Adamé, qui va se retrouver lui-même piégé sur Narvalda et qui va être finalement un petit peu le gardien et spirituel et physique d'Isalis et Moham, qui vont avoir la lourde tâche de retrouver le dragon blanc, qui évidemment était un être bien pensant, et par la tromperie humaine, puisqu'il n'y a pas d'humain sur Narvalda, par la tromperie humaine, a un petit peu changé et s'est tourné vers le mal. Et maintenant, il va falloir qu'il trouve le moyen de lui rendre l'objet.
Il y a quand même une humaine.
Alors oui, mais...
mais on n'en parle pas.
Mais on n'en parle pas tout de suite.
On n'en parle pas. Alors ça, là, vous voyez, ça, c'est
là,
ce qu'on appelle le teaser.
Là, c'est pour me prouver que
vous
avez bien lu tout l'ouvrage.
C'est pour vous, c'est surtout pour faire le teaser, pour que nos auditeurs aient envie d'en savoir plus.
En réalité, oui, il y a une humaine sur Narvalda que les enfants vont découvrir et rencontrer.
Alors, l'ouvrage s'ouvre par un prologue qui est en réalité un flashback, un retour sur un événement passé qui ne prendra son sens que beaucoup plus tard dans le roman. Pourquoi avoir choisi cette organisation-là, d'une certaine manière, de bousculer la chronologie?
Alors, pourquoi on a suivi nos deux climatologues?
Voilà.
Alors, en fait, c'est vraiment ce qui m'inspire le plus. C'est-à-dire que j'aime toujours mélanger les genres. C'est-à-dire, on pourrait imaginer sur l'instant, lorsqu'on démarre, que Audren et Yves, qui vont partir au large de la Russie sur une île de glace, on est sur un roman tout à fait normal et qui se passera des choses tout à fait normales. Jusqu'au moment où ils vont rencontrer quelque chose d'inhabituel sur une île où il n'y a pas de vie.
Quelque chose qui bascule.
Voilà, qui fait basculer. Et j'aime bien créer un peu ce côté un peu tragique. Et puis aussi, ça va faire partie un peu de l'intrigue, puisque l'un des climatologues est le père, en fait, d'Isalis, qui est encore un bébé au moment où il est confronté à cette drôle de créature. Mmh. Et lorsqu'il va être rapatrié à Quimper, d'ailleurs, on est dans le deuxième chapitre où on a une disparition improbable sous les draps d'hôpitaux. Mmh. Voilà. Donc, en fait, j'ai voulu écrire ça parce que j'aime bien toujours emmener les mondes ordinaires au monde magique, comme la saga et comme, à une certaine époque, avec tout simplement un enfant qui avait été dans une librairie, qui était tombé sur un livre en l'ouvrant. Mm-hmm. On parle de l'histoire sans fin.
On parle de l'histoire sans
fin.
Oui.
J'aime bien ce côté-là parce que je trouve que c'est ce qui nous fait encore plus rêver. C'est-à-dire qu'on comprend bien qu'on est dans un monde ordinaire et que je peux proposer d'avoir une clé sur un autre monde et de vous ouvrir ce monde.
Mm-hmm. Oui, et en même temps, les deux mondes se télescopent à un moment donné. C'est effectivement un ressort puissant parce que les enfants, on ne sait pas trop où ils vont atterrir, on ne sait pas où ils vont arriver, on ne sait pas tout ce qu'ils vont rencontrer sur leur route comme danger. Alors, il y a toute cette construction extrêmement tendue qui crée le suspense, qui donne envie. En anglais, on appelle ça a page turner. On tourne la page parce qu'on veut savoir ce qu'il y a derrière.
Complètement.
Voilà. Alors, toute l'aventure se noue à Quimper. Alors, vous n'êtes pas breton d'origine, on l'a dit tout à l'heure.
Complètement.
Mais vous êtes breton d'adoption et à ce titre, vous avez le passeport. Donc, toute l'aventure se noue à Quimper dans cette magnifique cathédrale gothique que je connais aussi puisque j'ai des liens familiaux. Ça n'apparaît pas dans ce premier tome véritablement, mais je vais essayer de satisfaire ma curiosité. j'ai l'impression que cette cathédrale va jouer un rôle beaucoup plus important qu'il n'y paraît dans la suite. Est-ce que je me trompe ?
Alors non, vous ne vous trompez pas. Il faut savoir que la cathédrale, elle a été construite d'une manière un peu empirique, un peu hasardeuse, d'abord comme un hôtel, ensuite comme une petite chapelle, et puis ensuite elle s'est, au fil des ans, dans la réalité, construite pour devenir cette cathédrale que l'on connaît. Elle a beaucoup de légendes qui l'entourent, comme probablement beaucoup de vieux monuments historiques. Et celle qui m'intéressait sur la cathédrale de Saint-Corentin, c'était que si l'on fait des recherches dans les vieux papiers, à un moment donné, on parle que ils avaient vu, ils savent pas ce que c'était, parce qu'il y a un feu en fait qui a ravagé les clochers. La pointe, et ils ont trouvé des stratagèmes assez curieux puisqu'ils ont essayé de l'éteindre avec de l'eau, ils n'ont jamais réussi, et puis finalement ils ont mélangé du lait de maman avec de l'eau bénite pour éteindre le feu en jetant un hostie au milieu, et les braises sont éteintes. Et certains disaient que dans les flammes ils avaient vu l'enfer, Lucifer ou un dragon, ou... Évidemment, ça colle parfaitement avec mon univers. Mmh. Et sachant que au tout début, l'hôtel qui a été construit, on se demande encore pourquoi il a été construit à cet endroit-là, puisque ce n'était pas très judicieux, étant donné qu'on a l'Odé à côté, et qu'ils n'ont jamais pu faire de fondation, puisqu'en fait, elles sont souvent noyées.
Mmh, mmh. Donc, il y a effectivement là... matière à rêver, matière au merveilleux.
Exactement, pour des auteurs d'heroic fantasy comme nous, il y a effectivement quelque chose de puissant qui peut se créer. Et d'ailleurs, vous parliez d'une humaine que l'on découvre sur Narvalda.
Oui.
Bizarrement, elle a disparu dans cette cathédrale.
Dans cette cathédrale.
Voilà.
Oui, oui, oui.
Alors on comprendra pourquoi après. Quoi.
Bien sûr, là il y a une brèche et vous vous y précipitez, c'est le cas de le dire.
Les deux pieds en avant.
Les deux pieds en avant. Alors. On va continuer un tout petit peu dans l'idée de ce roman. Le monde qui s'ouvre à nos héros, donc parallèlement à notre monde, et que vous nommez donc Narvalda, offre à la fois une nature magnifique que vous décrivez très précisément. C'est, on a envie d'y être, c'est très, très apaisant, très beau. Tout au moins jusqu'à un certain moment.
Jusqu'à un certain moment.
Voilà. C'est aussi un monde où cohabitent, et voilà, nous y sommes, la violence, des sentiments de compassion, d'empathie, enfin toute la palette des sentiments humains.
Ouais.
Voilà,
toute la complexité humaine.
Voilà. Ouais. Alors, est-ce que cet état du monde de Narvalda que vous décrivez est aussi à comprendre peut-être comme une métaphore critique de nos sociétés actuelles. Ou est-ce qu'il faut y voir rien d'autre que les péripéties haletantes, certes, mais bon, voilà, que l'on partage le temps d'un roman. Quelle est votre ambition? Et puis, jusqu'où voulez-vous porter le parallèle dans ce domaine?
Alors, il faut savoir que cette saga, normalement, elle était prévue de faire en deux volets. Et donc, dans le deuxième volet, effectivement, on va en découvrir un peu plus. Et effectivement, c'est, comme vous dites, un petit rappel à l'ordre de notre propre manière d'agir dans notre monde. Puisque Narvalda... le côté sombre n'existait pas jusqu'à ce que Swag, ce sorcier, s'en prenne en fait à ce monde et le change. Mais pourquoi tout cela? Il y a eu un enchaînement d'éléments qui se sont faits dès lors que Denartimeus, humain, a mis les pieds sur Narvalda, a ravi un objet à en fait seigneur du savoir et qui a d'une certaine manière gangréné en fait Narvalda. Donc on va découvrir jusqu'où l'implication humaine a pu aller dans un monde magique où, en fait, on ne se souciait pas des guerres, de territoires, des choses comme ça. Et d'ailleurs, on découvre une mage crumb, une magicienne, en fait, qui a dessiné une carte. Et comme au Moyen-Âge, elle avait fait une carte juste pour repérer différents éléments, les villes que l'on y trouve, sans se préoccuper, en fait, d'y mettre des distances. Quoi.
Mmh. Oui, donc il y a un élément perturbateur qui est l'humain, qui vient effectivement polluer, si on peut dire, ce monde qui était en équilibre.
Qui était en parfait équilibre, en parfaite harmonie, alors que l'on avait des dragons des glaces, des dragons de charbon, on a des dragons de l'esprit, on a des guerriers... qui ressemblent un peu à des minotaures, mais qui, derrière leur brutalité, avaient une présence d'esprit, une logique, un respect avec la vie, quoi.
Alors, ce monde de Narvalda est aussi un monde avec ses codes sociaux,
tout à fait,
alimentaires,
exactement,
culturels, militaires, son langage, on va y revenir.
Oui.
Et j'ai beaucoup aimé, j'ai été amusé par cette pratique que vous appelez le
gond.
alors, ouais. le gond que l'on écrit G2OND,
ouais.
En quoi cela consiste-t-il? J'ai trouvé ça amusant.
Ben justement, avant que l'humain n'arrive, lorsqu'ils avaient des choses à régler, ils réglaient ça par un jeu. C'était un jeu en fait où s'il y avait deux personnes qui n'étaient pas d'accord sur quelque chose, ils se confrontaient avec le jeu du gond, c'est-à-dire ils se mettaient des claques jusqu'à ce qu'il y en ait un qui tombe et qui ne se relève plus. Et, évidemment, il faut rapporter ça à la logique de Narvalda, c'est-à-dire que ce sont des créatures qui font au bas mot 3 mètres de haut, qui font 150-200 kilos de muscles, mmh. et qui vont aller se mettre un tour chacun, une claque, jusqu'à voir qui est le plus costaud. Mais là encore, si on lit dans l'histoire, on découvre que Moham a emmené et a perverti un peu le jeu du Gund, puisqu'il va donner une astuce à un des Pailladiens pour faire que finalement...
Alors les Pailladiens, alors, pour nos auditeurs qui n'ont pas lu encore votre livre.
Alors les Pailladiens, ils font partie des plus anciennes créatures en fait, de Narvalda. Ce sont de grands guerriers qui vivent justement un petit peu sur l'ouest de Narvalda et l'est. On le retrouve sur la carte, donc ils sont sur plusieurs villes, donc il y a Payada, il y a Flas et il y a Nash.
Voilà. Alors, j'aime bien la définition, parce que vous avez un glossaire à la fin, et qui m'a beaucoup servi, on va en reparler après, mais vous êtes contrôlé, vous avez dit des claques, mais là, vous mettez carrément, ils se foutent des baffes, et la définition est encore plus savoureuse, effectivement, oui. Quand on a ouais. en tête la taille de ces créatures, ouais. On aimerait bien y assister, mais... bien protégé.
Voilà, hein. C'est pas des claquounettes.
Voilà. Alors, vous décrivez effectivement de nombreux combats également. Il y a,
oui.
Voilà, il y a des affrontements, des corps à corps terrifiants, vous l'avez dit, par la taille de ceux qu'il faut affronter. Je me suis demandé, est-ce que votre expérience militaire, votre expérience d'instructeur de combat, vous a aidé dans le réalisme de l'écriture de ces passages?
Oui, c'est un petit peu mon problème parfois, et c'est peut-être aussi pour ça que j'écris de l'héroïque. heroic fantasy. J'aime bien un peu les rencontres musclées, les combats, et effectivement ressort de chez moi un petit peu les techniques de combat et celles aussi que j'ai appris à l'armée, puisque forcément on apprend le corps à corps à l'armée et des techniques un petit peu plus brutales, quoi. Donc oui, ça retranscrit à chaque fois un petit peu la réalité de ma jeunesse. Voilà.
Alors, je vous propose une seconde pause musicale, donc très toujours tirée de ce même album. Et cette fois-ci, c'est Game of Thrones.
Tout à fait.
Ghislain Fernandez, on le disait tout à l'heure, juste avant la pause musicale, que tout le monde aura reconnu bien sûr,
ouais.
Vous avez adjoint un glossaire à ce livre, je m'y suis fréquemment reporté. Je reviens donc sur ce langage que vous élaborez pour décrire ce monde de Narvalda et en rendre compte. Et avec cette aide donc du glossaire, et j'ai beaucoup songé à ce, en lisant à ce langage créé de toutes pièces par Anthony Burgess pour La Guerre du Feu.
Oui.
Alors lui, il avait procédé en tant que linguiste en associant des racines indo-européennes, en utilisant différentes racines de langues latines,
l'étymologie de certains mots.
Voilà. Mm-hmm. Et je me suis demandé quel était pour vous le processus suivi pour la création de tous ces mots. Prenons par exemple le mot, un mot que j'ai bien aimé parce que il rejoint mon côté gourmand, alors je vais essayer de bien le prononcer, le Naonda par exemple. comment ça vous advient ce genre de terme?
Alors moi qui suis dyslexique à la base quand même, en fait je me focalise surtout sur la phonétique. Parce que je pense que dans l'heroic fantasy, ce qui est important, c'est de choisir les mots en fonction de ce que l'on entend, lorsque l'on va lire. Je donne un exemple, un méchant, à part pour Swag, j'ai voulu rigoler parce que j'ai pris un petit peu les termes des enfants. Il faut savoir que Swag, chez les enfants, ça veut dire c'est génial, c'est super, voilà. Et sauf que ça ne s'écrit pas avec deux G, mais avec deux A. Donc j'ai voulu faire j'ai joué un peu sur les mots, puisque là dans l'histoire il est loin d'être super et c'est vraiment
l'antithèse.
C'est l'antithèse par excellence. Mais sinon en fait j'aime bien donner des noms ou des mots qui vont d'une manière un peu intuitive expliquer ce que c'est. Donc,
Alors, voilà. Je vous suis complètement parce que vous avez aussi créé ce mot-là, les mouf-mouf.
Les mouf-mouf.
Alors, voilà. J'ai adoré les mouf-mouf parce que ce sont effectivement des petites créatures rondes, on les voit.
Exactement.
De toutes les couleurs.
C'est ça.
On voit pas les pattes, on voit que les poils.
De grands yeux.
De grands yeux qui sont visibles, voilà. Ouais. Et quand vous dites mouf-mouf, et ben effectivement, on a cette vision que de l'animal, quoi.
C'est exactement ça. Après, avec le descriptif, ça va un petit peu plus loin, mais c'est amusant, effectivement. Et d'ailleurs, quand j'en parle avec mes lecteurs, et j'ai souvent les jeunes filles qui me disent « Oh, pétard, si on pouvait adopter un mouf-mouf, ce serait juste fabuleux. » Alors, le mouf-mouf, moi, je l'ai créé un peu comme les Gremlins.
Oui,
avant
voilà,
de devenir Gremlins et méchants, c'est des petits êtres tout mimi et tout gentils, quoi. Et on va découvrir que le mouf-mouf a des talents cachés.
Il joue un rôle.
Voilà, alors là, bon, pour le coup, il est tout doux, il a des longs poils, il a de grands yeux très expressifs, il sent le citron.
Oui.
Il s'appelle d'ailleurs Wapi, puisque Isalis tente de lui donner un nom, mais elle ne sait pas du tout comment l'appeler. Et finalement, c'est lui qui lui dit comment il s'appelle. Donc j'ai trouvé ça assez excellent, parce qu'il y a déjà un lien entre les deux. Maintenant, ce n'est pas une créature forcément qui va parler. Mais qui va interagir dans l'histoire au fur et à mesure et qui va donner une dimension énorme par la suite.
On sent très bien que rien n'est amené au hasard, que tout va être amené à un moment ou un autre à jouer
à
un
se révéler,
rôle. Voilà. Alors j'ai bien aimé aussi les Shtikawa. Alors je prononce peut-être pas bien. Quand je dis un Shtikawa, je demande plutôt un petit café, mais là je dis Shtikava. Alors ce sont, vous l'expliquez, des grosses mouches.
Oui, elles sont hyper pénibles.
Qui sont très pénibles parce que quand elles stressent,
elles
donc si
explosent.
Vous commencez, voilà, quand vous commencez à les chasser, elles explosent.
Voilà, elles explosent et elles répandent en fait une substance très irritante.
Voilà. Alors, c'est dramatique parce que, évidemment, c'est ce qui se produit à un moment du livre. Bon, voilà. Alors, on va avancer parce que le temps, effectivement, file très vite avec vous. Donc, l'Orbita Orlus se présente comme une saga, la communauté de l'œil. C'est le premier tome.
Tout à fait.
Et donc, avec tout ce que l'on a dit, ça annonce le suivant ou les suivants, avec un personnage qui apparaît, mais que l'on ne rencontre pas, le prince Dal. Alors, Dal, pas comme Béatrice, mais D'AL.
Alors, vous verrez pourquoi j'ai donné ce nom-là dans le tome 2. Vous verrez que c'est. On pouvait pas les appeler autrement.
Voilà. Donc, vous précisez effectivement qu'on va le rencontrer dans le tome 2, dans le livre, vous le dites. Alors, ce que j'ignore, par contre, c'est est-ce que. S'il s'agira d'une trilogie, d'une quadrilogie, où en êtes-vous de l'écriture? Votre plan global est achevé? Quelle marge de manœuvre allez-vous laisser à vos personnages dans ce tome 2? Voilà, je vous balance tout ça en même temps.
Alors, il faut savoir que, comme je vous disais tout à l'heure, en fait, cette saga n'avait pas pour vocation d'être une longue saga. D'ailleurs, j'ai fini d'écrire le tome 2, qui sortira au mois de mars. Et en réalité, si vous voulez, normalement, au bout du 2, on a la révélation totale de leur mission. On arrive quand même à une fin. Sauf que entre le mois d'août et le mois de septembre, j'ai reçu peut-être 200 mails des lecteurs que j'ai rencontrés un peu partout en France qui m'ont dit « Mais Monsieur Fernandez, une saga, ça démarre à 3 livres, quoi. Narvalda, on ne veut pas la quitter au deuxième. » Donc, quand je leur disais, ils me demandaient eux-mêmes « Il y aura combien de tomes ?» Je leur disais 2, ils étaient géniaux. Ils ont dit « C'est génial, 2, bah, c'est une petite saga. » Et maintenant qu'ils sont rentrés sur Narvalda, ils veulent plus la quitter. Donc, je vais vous dire franchement, le tome 2 va sortir au mois de mars. Il est fini. J'ai modifié à leur souhait la fin pour faire finalement une fin ouverte, pour proposer ensuite un troisième volet qui sera réellement la fin. Ce sera Moham dans la forêt de Swad.
Ça, c'est un scoop alors, pour Brodaille 5.
Tout à fait, parce que j'en ai parlé encore à personne.
Eh bien, écoutez, là, je vous remercie. C'est une très belle révélation. Alors, juste quand même un mot, parce que c'est très important, sur votre éditeur. Vous êtes tous vos livres sont publiés chez Fantasy Park. Fantasy Park Édition, donc spécialisé dans ce genre littéraire. Est-ce que vous pouvez présenter peut-être cette maison d'édition dont je sais qu'elle vous est très proche et particulièrement chère?
Oui, tout à fait. En fait, il faut savoir que dans mon parcours, j'ai d'abord été édité avec d'autres maisons d'édition sur Paris. Et ça s'est pas très bien passé puisqu'ils voulaient me cataloguer, me faire rentrer dans un système que je ne voulais pas. Et ils m'ont fait réécrire effectivement le premier de mes livres, Le Mystérieux Héritage de Diela, que j'ai ensuite reproposé à Fantasy Park puisque je comptais arrêter d'écrire après le premier livre. Et Sandrine, Sandrine Bruyer, en fait, qui est l'éditrice des éditions Fantasy Park, elle a créé cette maison d'édition tout simplement pour pouvoir permettre aux lecteurs du Mystérieux Héritage de Della de découvrir les trois autres tomes. Et ensuite, ben, je me suis un peu attaché à elle, puisque en fait, c'est une maison d'édition associative qui se bat justement pour faire découvrir des œuvres françaises dans l'Heroic Fantasy.
Alors, une question, on a très peu de temps.
Oui.
Vos livres, on peut les trouver sur votre site, on peut les trouver en librairie.
Alors,
ils
on les
sont
trouve,
disponibles.
Oui, effectivement. Donc, les éditions Fantasy Park, en fait, on attache une grande part d'importance à ce que les livres se trouvent partout en librairie et on peut les commander aussi directement sur leur site.
Eh bien, écoutez, on arrive tout à fait au terme de l'édition de cette émission, Ghislain Fernandez. Merci de votre participation. On aurait pu encore discuter longuement. Merci à Fred Guyon, comme toujours très efficace, derrière son pupitre, avec son grand sourire barbu. Je vous retrouve juste avant Noël, le lundi 23 décembre, en compagnie de Charles Dourcenot. D'ici là, portez-vous bien.
Pour écouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur notre site internet bretagne5.fr.